Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui font vivre la philosophie. Philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les idées et quel rôle les philosophes doivent-ils jouer dans la cité? Mon invitée aujourd'hui est une écrivaine américaine qui ne revendique pas l'étiquette de philosophe, mais dont les écrits ne parlent pas d'autre chose, de la relation entre le corps et l'esprit jusqu'à la question de savoir ce qui fait qu'un être humain est humain, de la distinction entre une image et un texte jusqu'à son goût pour l'incertitude et pour René Descartes. Voici aujourd'hui le portrait de Siri Hustvedt.
Clooney.
Siri.
You know what you've done to me? I was going to write a book, but now I'm going to write a bestseller.
Je crois que chaque livre, chaque poème vient de là.
I pulled out a piece of paper and I wrote me too on the top of it.
La littérature peut être par elle-même une espèce de désordre et de refus de l'ordre et de critique de manière à mettre en place un ordre nouveau.
And you read your Emily Dickinson.
Je pense que les hommes m'ont toujours détourné d'écriture. Et pourtant, il y a les deux dans ma vie.
Ernst Lubitsch, Annie Ernaux, Simone de Beauvoir, Sophie Auster et Mozart, rien de moins pour vous accueillir en studio. Siri Hustvedt, bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. À vos côtés se trouve Eve Der qui assurera la traduction ce matin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ai-je raison de dire que vous ne vous présentez pas comme une philosophe?
Non. I never formally studied philosophy.
En effet, je n'ai jamais étudié de manière formelle la philosophie. J'ai obtenu un doctorat en littérature anglaise. Mais depuis mon plus jeune âge, je lis beaucoup d'ouvrages philosophiques. Et en grandissant et en vieillissant, je me suis de plus en plus tournée vers la philosophie. Parce que cette discipline, j'espère, peut m'aider à répondre à des questions qui continuent de m'intriguer, de m'irriter, de me tarauder.
Vous pensez que c'est à ça que sert la philosophie, à essayer de répondre à des questions qui vous intriguent?
Je
pense que la philosophie, eh bien, c'est une série infinie de questions,
inépuisables.
Et pour moi, il s'agit d'arriver à formuler la prochaine question pertinente, la question suivante, plutôt que de parvenir à une solution définitive à une de ces grandes questions.
Et c'est comme ça que vous écrivez, en essayant de formuler des questions.
Yes, that.
Oui.
So, you know, my position has been that by adopting multiple perspectives,
en adoptant des points de vue multiples, ce à quoi l'on aboutit à travers la lecture, souvent,
accepting multiple ways of knowing,
ce qui implique d'accepter des modes très différents de connaissance ou d'épistémologie sous différents modes. Et cela vous permet d'examiner, d'étudier une même question sous des points de vue différents. À partir de perspectives très variées, bien sûr, vous n'allez pas obtenir la même réponse selon les outils que vous employez, mais ça va vous permettre d'avoir une zone d'ambiguïté concentrée, je l'appelle ainsi.
So it's not mush, right? But it's not ultimate perfect logical clarity either.
Donc ce n'est pas n'importe quoi, mais ce n'est pas non plus d'une clarté de cristal.
De fait, dans vos ouvrages, on y trouve de la philosophie, parfois de manière explicite, hein, comme le livre qui s'appelle « Les mirages de la certitude, essai sur la problématique corps-esprit », qui pour le coup traverse tout votre travail, mais on trouve aussi des réflexions qui relèvent de la neuroscience, de la psychanalyse, tous les registres sont mêlés. Est-ce que de votre côté, c'est une définition de la littérature que de s'intéresser aussi à d'autres disciplines?
It's funny, I think my journeys through multiple disciplines.
Je pense que mes traversées, mes voyages à travers toutes ces disciplines différentes n'ont fait que nourrir et renouveler mon admiration pour l'art de la fiction. Et un des grands théoriciens du roman, un des grands théoriciens de la fiction, c'est M.M. Bakhtin, qui reconnaît dans sa théorie la nature dialogique de la fiction et la manière dont il est possible d'incorporer des voix multiples dans un seul volume, ce qui implique là encore des points de vue, des perspectives multiples, des types de langage aussi très variés, le niveau de langue de différentes classes sociales, le langage des puissants et le langage de ceux qui n'ont pas de voix. Toutes ces différentes strates sont incorporées. Je crois qu'il faut beaucoup voyager et tourner pour aboutir quelque part.
Dans votre livre « Les mirages de la certitude », vous racontez votre première rencontre avec la philosophie. C'est une question que je pose aux philosophes qui viennent à ce micro, Cyril Svet. Comment, quelle a été votre première rencontre avec la philosophie? Et vous y répondez. Vous dites « De ma toute première lecture, il y a 40 ans, des méditations métaphysiques de René Descartes, j'ai conservé une vision du philosophe installé dans un fauteuil moelleux, vêtu d'une robe de chambre en brocart de velours et coiffé d'un bonnet de nuit, des pantoufles aux pieds et des binocles sur le nez. Cette image de Descartes, telle une caricature, surgit dans ma tête à chaque fois que je pense au doute radical. »
It's true.
C'est vrai.
Actually, I still love reading Descartes.
Et je continue d'aimer lire Descartes. J'adore, je lis en anglais, navré.
But the clarity and the intimacy.
Mais la clarté et l'intimité
is wonderful.
Des propos de Descartes sont merveilleux.
Not just that caricature of
il y a bien sûr cette caricature du philosophe dans son fauteuil moelleux. Mais lire Descartes, c'est comme prendre une bonne douche bien fraîche quand il fait très chaud. Bien sûr, il y a certains aspects de l'œuvre de Descartes avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Lesquels? Je ne pense pas que l'esprit et le corps soient deux substances différentes et distinctes, non. Et bien sûr, Descartes a consacré une bonne partie de sa vie à essayer de comprendre comment réunir de nouveau le corps et l'esprit. Et la version caricaturale de Descartes, notamment aux yeux des scientifiques, de par le fait qu'il ait opéré une division, une séparation entre le corps et l'esprit. Mais un de mes ouvrages favoris de Descartes, c'est Les Passions de l'âme.
And there he works very hard to think about the role that emotion
plays. Il a beaucoup réfléchi au rôle que jouent les émotions et les pensées.
But he was a very important early read of mine. But you know,
c'est un des tout premiers que j'ai lu, Descartes. Il a donc beaucoup compté.
Children are natural philosophers.
Mais je crois que la plupart des enfants sont à l'état naturel des petits philosophes.
Vous pensez?
I remember thinking how strange it was that
je me rappelle avoir pensé combien c'était étrange quand j'ai compris que je pouvais penser, réfléchir.
That people had noses, eyes.
Que les gens avaient des yeux, des nez.
Yeah. So that push, that curiosity, I think is the engine of philosophy.
Et je crois que c'est cette curiosité insatiable qui nourrit la philosophie.
Comme un étonnement sur l'existence. On définit traditionnellement la philosophie comme étant une affaire d'étonnement. Et c'est ce que vous dites sur le fait que les gens puissent penser ou avoir un nez.
Oui, et puis poser la question, pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Et plus on acquiert du savoir, plus on lit, et plus on va être enclin à interroger les fondements sur lesquels il semble y avoir un accord général, mais qui est vraiment de nature culturelle.
Ce qui est passionnant lorsqu'on vous entend parler de Descartes, c'est de voir à quel point le problème central pour Descartes, qui est de savoir comment le corps et l'esprit peuvent s'agencer, non seulement vous occupe tout au long de vos travaux, mais c'est appliqué à votre propre vie. Vous racontez dans un ouvrage qui s'appelle « La femme qui tremble » comment un jour, après que votre père soit mort, au moment de prononcer un discours, votre corps s'est mis à trembler. Vous avez perdu le contrôle de votre corps et à votre grande surprise, vous avez constaté que votre esprit, lui, continuait à fonctionner de manière absolument normale. Si ça, c'est pas la preuve que Descartes avait raison.
Non. I think it is really problematic to imagine the psyche as a floating
entity. Très problématique d'imaginer la psyché comme une entité qui flotte et qui n'aurait que très peu de connexion au corps.
I think as a geneticist that I really admire, Waddington
est un généticien que j'admire beaucoup et il a dit soit il existe quelque chose de l'ordre de la conscience partout ou alors nulle part.
And since Descartes, I think, is right about the fact that we can be aware
a raison sur le fait que l'on peut avoir conscience de notre propre conscience.
Et notre état de conscience. Appear, right? At what point does what we think of as consciousness appear in the evolutionary story?
Et la question se pose dans l'histoire de l'évolution, à quel moment apparaît cet état de conscience?
Does it go all the way down to the quantum level?
Ou alors est-ce qu'il faut revenir au niveau quantique?
But dualism, I think, is a very hard.
Mais le dualisme est un argument qu'il est difficile de tenir sur le plan philosophique.
Précisément, philosophiquement, on a mille raisons de le dépasser. L'expérience que vous décrivez, elle, est du côté du dualisme. Et c'est pas la seule. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'on se rend compte ici. Alors, dans quel sens ça s'est fait? Est-ce que c'est votre travail qui a influencé votre vie? Ou est-ce que c'est l'expérience que vous faites très tôt de votre corps, jusqu'aux migraines que vous décrivez, qui vous font vous intéresser à cette question-là?
Vous avez tout à fait raison.
The story of the symptom,
l'histoire des symptômes, de ces symptômes de tremblement,
which happened to me four times,
only four qui se sont emparés de moi quatre fois seulement.
But I was recently called upon to talk about it again.
Mais récemment, on m'a demandé de reparler de cet épisode.
Because the Chancellor of Germany had
parce que la chancelière allemande souffrait apparemment des mêmes symptômes très récemment.
Also unexplained.
Et qu'on ne pouvait pas expliquer non plus.
And
dont l'origine restait mystérieuse. Et ça m'a beaucoup intéressé que la réponse médicale face à cette femme si importante dans la société et qui vivait ces symptômes inexpliqués, eh bien, elle a rencontré le même étonnement et la même inaptitude à répondre au pourquoi. Comme ça a été mon cas, personne ne savait. Je me suis tournée vers des psychiatres, des neurologues.
So, in that book,
et personne ne pouvait répondre. Dans ce livre, La femme qui tremble, j'ai eu le privilège d'arriver à me dissocier et d'être à la fois le médecin et la patiente. J'étais l'objet de mes propres études. Et à la fin de l'ouvrage, bon, je ne savais pas du tout où j'allais avec ce livre.
In English, the book is called The Shaking Woman.
Le titre anglais, c'est The Shaking Woman, La femme qui tremble, ou Une histoire de mes nerfs.
So that the journey of the book, I realized only once
Donc,
I had finished it.
Tout le parcours de ce livre, enfin, je l'ai compris que rétrospectivement après l'avoir terminé.
From the alien third person self.
Ça va du soi étranger exprimé donc à la troisième personne.
The ownership of the symptoms.
Jusqu'à une réappropriation des symptômes dans mon propre récit.
The book ends with the sentence, I am the shaking woman.
Se termine sur ces mots, je suis la femme qui tremble.
Now, I didn't understand either until I finished the book.
Mais je n'avais pas compris avant d'avoir fini le livre.
That the journey of the book itself
que toute cette traversée opérée par l'écriture, par le livre, a eu un effet thérapeutique sur moi.
Not really to cure the symptoms,
pas tant pour guérir les symptômes dont je souffrais,
but by mastering the questioning,
mais en arrivant à maîtriser tout ce questionnement et en examinant ces symptômes depuis des points de vue scientifiques et des disciplines différentes,
I was able to integrate the shaking woman.
Et de la sorte, j'ai réussi à incorporer cette femme qui tremble dans Siri Hudsvet.
Right.
Vous avez dit que vous vous étiez pris comme objet de vos propres études, ce qui n'est pas sans rappeler cette personne que voilà.
People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. In the end, I succeeded. My name? Sigmund Freud.
Sigmund Freud sur France Culture, les chemins de la philosophie aujourd'hui en compagnie de Siri Hudsvet qui nous accompagne le temps de cette émission Profession Philosophe. On parle de philosophie et on va faire la connaissance philosophique de Siri Hudsvet. Parmi les voix qui ont compté pour vous, on a parlé de Descartes. Il y a aussi celle de Sigmund Freud, n'est-ce pas?
I first read Freud before I read Descartes.
La première, j'ai lu Freud avant de lire Descartes.
I was 15 years old.
J'avais 15 ans quand j'ai découvert Freud.
And I actually was prompted to read him.
J'ai été poussée à
le
lire.
Because I had read critical feminist essays about
Parce
Freud.
Parce que j'avais lu des essais féministes très critiques à l'égard de Freud.
Specifically Kate Millett's
Notamment l'ouvrage de Kate Millett. La politique sexuelle, politique de la sexualité.
Well, I still admire Kate Millett.
Je continue d'admirer Kate Millett.
But she sent me to the source and I
Mais
became
c'est elle qui m'a envoyé à la source aux ouvrages
Freud's,
de Freud et je suis tombée en fascination.
And
comprendre la notion d'inconscient et je n'ai pas cessé de lire Freud depuis.
Et est-ce qu'il y a un lien entre votre travail d'écriture et celui d'une analyse ou d'une psychanalyse, puisque quand vous parlez de votre livre, vous dites que ce n'est pas une thérapie, mais vous travaillez de la même façon.
Yeah, so there is a difference between psychoanalysis, which
Il y a
I have
une différence
also
avec la psychanalyse.
Decade,
je m'y suis adonnée pendant une dizaine d'années quand même, je le précise.
Which is, of course, in psychoanalysis, there is a real other.
Et en psychanalyse, il y a un vrai autre.
The analyst.
L'analyste.
So even if you're also inventing the analyst,
Donc, même si vous inventez également l'analyste dans le transfert,
there really is someone sitting in that chair.
Il y a réellement quelqu'un, un humain, assis dans ce fauteuil
who can speak.
And qui peut parler.
Sometimes those interpretations can
Et
change
parfois,
the course
ces interprétations peuvent modifier
kind of
le cours de ce type de dialogue très particulier.
But writing anything, fiction or non-fiction,
Mais quoi qu'on écrive, de la fiction, de la non-fiction,
always addressing an imaginary other.
On s'adresse toujours à un autre imaginaire à travers l'écriture, toujours.
So, it is a dialogical act to use that word
C'est donc
again.
Une action dialogique pour revenir à ce terme.
And in that way, both writing and reading
Et de cette manière, autant la lecture que l'écriture ont un fondement intersubjectif.
Ce qui d'ailleurs est une bonne façon de parler d'une autre personne qui a beaucoup compté pour vous et que voici, elle s'appelle Annie Ernaux.
La mort de mon père, au fond, c'était pour moi la naissance de l'écriture. Mon père est mort en 67, c'était un grand choc personnel. Mais en même temps, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive et je ne savais pas encore quoi, mais c'était parler du monde de mon enfance, c'est-à-dire d'un monde qui était le monde de la gêne. Pas de la pauvreté, mais de la gêne, du désir d'être mieux.
C'était Annie Ernaux en 1984, Siri Hustvedt. Comment Annie Ernaux a-t-elle compté pour vous?
C'est une bonne question.
Quand je l'ai découverte, je n'étais plus toute jeune.
My encounter with her work,
mais ma rencontre avec le travail d'Annie Ernaux,
was an experience of a kind of phenomenology.
Ça a été l'expérience d'une sorte de phénoménologie.
Reality that I instantly recognized.
De la réalité, d'une réalité que j'ai immédiatement reconnue.
For her ability
je l'admire
to
énormément.
Not only what the world is like, but
pour sa capacité à saisir non seulement ce qu'est le monde, mais surtout la dimension émotionnelle.
Nuance.
Toutes les nuances émotionnelles liées à l'expérience humaine.
Vous l'avez rencontrée?
Never.
Vous aimeriez bien?
Jamais.
Yeah, I think she's wonderful.
Ah oui, je la trouve merveilleuse.
Si on reste encore un instant du côté des choses qui ont compté pour vous et qu'on quitte le domaine des personnes, on peut, en s'approchant de votre oreille, écouter ceci. Que sommes-nous en train d'écouter? Écoutez, Siri Hustvedt.
We are listening to what I think maybe the greatest duet in music.
Ce qui est, je pense, le plus beau duo dans la musique, c'est le Don Giovanni, le Don Juan de Mozart. J'ai peur d'écorcher l'italien, le titre en italien.
De ce duo. Embodiment.
Mais pour moi, c'est vraiment l'incarnation du dialogue même.
But it's also a deeply erotic.
Et puis c'est aussi profondément érotique.
When I was young, but I was probably a teenager when I first heard it.
Je crois que j'étais adolescente la première fois que j'ai entendu cet air.
And it had a feeling effect on me that was profound.
Et ça m'a envahi, ça a eu un effet sur moi extrêmement profond et ça se reproduit à chaque fois que je l'écoute.
There's something about
ça me chamboule.
What is happening?
Il y a quelque chose entre
these two
ce qui est en train de se passer entre les deux personnages
that never stops exciting me.
Qui ne cesse de me donner le frisson.
Est-ce le personnage de Don Juan qui vous plaît, Siri Hustvedt? ou c'est la musique elle-même, parce que le personnage de Don Juan aujourd'hui n'a plus très bonne presse.
He's horrible.
Il est horrible, Don Juan.
And he is punished.
C'est un affront, d'ailleurs, il est puni, hein, on s'en souvient à la fin. Et de manière fort spectaculaire, dramatique. Mais je crois que c'est la musique qui me remue le plus. Et bien sûr, avant d'avoir compris le sens des paroles en italien, je percevais très fort et je ressentais l'accent particulier de ces deux personnes qui dialoguaient. Et comme je vous le dis, ça m'excitait presque physiquement.
Dialogical beauty.
Il y a une beauté rythmique, dialogique.
To this melody that has stayed dans cette with me air, my whole life.
Dans cette mélodie, et elle me colle à la peau.
Mais c'est le dialogue qui vous excite surtout, j'ai l'impression, non?
Yeah. I really do believe, and sometimes belief is significant. I think in.
Je crois, et parfois la croyance est importante dans la philosophie vers laquelle on se sent attiré ou que l'on rejette.
Really do believe, and I think there's a lot of both empirical and philosophical reasons for believing.
Il y a des raisons philosophiques et empiriques qui me conduisent à cette croyance. Mais en tout cas, je suis convaincue que ce sont les autres qui nous font.
And that one of the fundamental aspects of human life.
Et l'un des aspects fondamentaux de l'existence humaine.
Very early on between the
c'est la relation très précoce entre le nourrisson et la personne qui s'en occupe, le plus souvent la mère.
And that the rhythms of those early dialogues
et les rythmes de ces tout premiers dialogues au début de l'existence vont façonner, vont nous façonner, vont façonner qui nous allons devenir, qui nous sommes.
And they are, of course, rhythmical.
Ces tout premiers dialogues, et bien sûr, ils sont rythmiques, empreints de rythme et de musicalité.
He was actually originally a psychoanalyst, but he ended up doing empirical work.
Il y avait un psychanalyste qui avait commencé par travailler de manière empirique sur ce qu'on appelle la dyade, c'est-à-dire la relation entre la mère et le nourrisson.
He's dead now, but his name is Daniel Stern.
Il est décédé maintenant, ce psychanalyste, mais il porte le nom de Daniel Stern.
Daniel Stern read an American philosopher named Susan Langer.
Et Daniel Langer. Stern avait lu Susan Langer, une philosophe américaine,
who was very interested in the rhythmic qualities
qui s'est intéressé à la qualité rythmique dans l'art, d'abord dans la musique, mais également dans les arts plastiques, visuels, ainsi que dans la littérature, et le lien qui se crée avec le spectateur, le lecteur.
Interaction that Langer describes, that rhythmic.
Et cette interaction décrite par Langer, toute cette interaction qui se trouve ancrée dans les rythmes même du corps, les rythmes biologiques. Il s'est appuyé là-dessus pour élaborer toute l'histoire des toutes premières relations et du début du développement de l'enfant.
Right. So, the glances, the eye
les regards dans cette dyade mère-enfant, le contact oculaire, mais aussi le toucher, bien sûr. Et tout cet univers de sensations qui apparaissent dans cette relation mère-enfant.
C'est pas moi qui vous contredirai, puisque tous les matins, je poursuis un dialogue pendant une heure avec quelqu'un différent, un dialogue de verbal et de corps. Mais vous, Cyrus Vett, avez choisi l'activité la plus solitaire au monde, l'écriture.
Oui, c'est ironique. J'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai un besoin énorme de solitude.
And since we've been talking about the body,
on parlait du corps.
I think that, you know, from very early childhood on,
I had. Je crois que depuis ma toute petite enfance,
kind of highly sensitive responses.
J'ai des réactions hyper sensibles, je suis hyper réactive à tous les stimuli liés aux sensations. Il y a quelque chose sur lequel on a mis un nom qu'en 2005. Il s'agit de la synesthésie à toucher miroir.
Right.
La synesthésie en miroir.
This is not a new thing, and it was written about
bien
before
sûr, ce
then,
n'est pas tout nouveau et on avait déjà écrit là-dessus précédemment. Mais en gros, on a découvert qu'il s'agit d'un phénomène neurologique et on s'y est intéressé davantage. La synesthésie en miroir, c'est quand vous regardez quelqu'un qui est en train d'être touché, que vous éprouvez dans votre propre corps la sensation vous-même d'être touché. Dans mon cas personnel, le phénomène n'est pas aussi prononcé. Il ne s'agit pas d'une mise en miroir totale. C'est sur un mode un peu plus mezzo.
Important for me to retreat.
Mais c'est ce qui a fait qu'il était important pour moi de me retirer d'un monde ou de situations qui étaient trop stimulantes pour moi, car je réagissais très fort.
My reading and writing and solitary activities,
la lecture, may have, l'écriture, toutes ces activités solitaires,
been in part generated by that hypersensitivity.
Je pense sont le fruit, le résultat, en partie, de cette hypersensibilité.
Voici une autre personne qui va s'inviter à notre table, elle s'appelle Simone de Beauvoir.
Eh bien, Simone de Beauvoir, bon, maintenant nous allons aborder une question enfin, délicate, mais qui est très importante, celle du caractère soi-disant scandaleux de votre œuvre. Défendez-vous. Eh bien, ça n'est pas de ma faute si, en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe.
Sirius Dvet, est-ce que vous vous définissez aussi, voire avant tout, voire même après tout, par votre sexe ou votre genre?
No. I'm interested in this because I actually think
non, ça m'intéresse beaucoup, ça.
Part of our,
ce que je me dis,
phenomenology as
c'est
human
qu'une
beings,
partie de notre phénoménologie en tant qu'être humain,
is that we go around in the world not looking at ourselves,
c'est qu'on évolue dans le monde sans se regarder soi-même.
Having lived experiences,
on a vécu des expériences,
thoughts, sensations,
on a eu des pensées, des sensations,
and actually not thinking about whether one is a man or a woman or
mais
something
sans
in
réfléchir
between
au fait que l'on soit homme, femme ou quelque chose entre les deux.
So that one becomes alerted to sex.
Et en fait, on prend conscience de l'existence du sexe.
Either depending on one's erotic feelings.
Cela dépend du potentiel érotique qu'on a chacun ou de ce qu'on ressent.
When one is encountering some erotic moment, of course, that's quite fluid, I
quand
think
on se trouve dans ces moments où il peut y avoir de l'érotisme, tout cela est très fluide.
Or encountering moments of sexism and misogyny when you have to, you're thrown back on yourself.
Et il y a aussi la misogynie.
Says, and you realize, oh my goodness,
quelquefois on est renvoyé
this
à soi-même.
Is about my sex.
Et on prend conscience du fait que, oh, mais il s'agit de mon sexe
said.
Et pas, il ne s'agit pas de ce que je viens de dire.
Vous avez lu Simone de Beauvoir?
Oh yes. So I first read her in a bad English translation.
D'abord dans une très mauvaise traduction anglaise. J'avais 14 ans.
How I couldn't possibly have understood that book. I have reread
it. Je ne pouvais pas comprendre ce livre. Depuis, je l'ai relu. Et cette fois avec dans une nouvelle traduction anglaise. Très bonne cette fois. Elle est très importante pour moi, Beauvoir. Son travail, son œuvre est extraordinaire. Et c'est intéressant, Sartre l'a encouragée à écrire. Et il lui avait posé la question, qu'est-ce que le fait d'être une femme, une fille, avait à voir avec son développement?
Absolutely nothing.
Et elle a répondu, rien du tout.
And he said, I think you should think about
et Sartre a insisté, je crois que tu devrais y réfléchir un
well,
peu plus.
Think she did.
Eh bien, elle y a réfléchi, en effet.
And I still regard The Second Sex as one of the great classic texts of feminism.
Est un des grands textes du féminisme.
Et pensez-vous que c'est un texte qui a vieilli, qui est daté et qui a été depuis supplanté par d'autres?
You know, it's long been noted by scholars that she does
universitaires
have a visceral
ont vu depuis longtemps distaste qu'elle avait for the female un dégoût body. Viscéral pour le corps féminin.
And I don't have that, actually,
et
I have to
moi,
say,
je ne partage pas ça.
I have a great awe, actually,
en fait, je suis plutôt en admiration.
The female body and its
en étonnement émerveillé face au corps de la femme et son potentiel reproductif.
But her analysis,
mais l'analyse que fait Simone de Beauvoir de ce que Pierre Bourdieu devait appeler habitus, plus tard l'habitus,
right? The famous statement, one isn't born but becomes a woman.
Vous savez cette phrase si célèbre, on ne naît pas femme, on le devient.
Is absolutely brilliant.
Ça, c'est brillant.
Right. So, you know, we
très puissant.
Incorporate ideas.
Je crois que on intègre dans notre corps des idées. Elles passent dans notre cerveau, mais également dans nos gestes, dans nos mouvements corporels. Nous sommes empreints de toutes ces pensées. Et ces pensées ont leur origine dans la culture, généralement. Mais on les fait nôtres et du coup, elles semblent être naturelles. Alors qu'elles sont acquises.
What the young Marx called species being.
C'est ce que le jeune Marx appelait l'être des espèces, species being.
Yeah.
Est-ce que ça vous donne une responsabilité? Vous dites, moi, je ne me définis pas d'abord comme femme. On me renvoie à l'image de femme. Ce qu'il se passe aujourd'hui, depuis plusieurs années, notamment avec le mouvement MeToo, nous contraint à considérer la question d'être une femme ou non comme étant primordiale. Est-ce que l'écrivaine et la penseuse que vous êtes a une responsabilité à cet égard de prise de parole publique, par exemple?
So, what really interested me about the Me Too movement,
ce qui m'a beaucoup intéressée dans le mouvement MeToo,
was not, of course, that we discovered that forms of sexual violation.
Bien sûr, on a découvert toutes ces formes de condescendance des hommes par rapport aux femmes, de leur agression physique, d'actes violents à l'égal encontre des femmes allant jusqu'au viol.
Been part of the social reality.
Et je crois que ça fait partie, hélas, des réalités sociales depuis très longtemps entre les hommes et les femmes.
Vulnerable young men too.
Et d'ailleurs, cela concerne également les jeunes hommes vulnérables.
Very much involves questions of social class.
Et je m'intéresse aussi à la question de la vulnérabilité et de l'appartenance à telle ou telle classe sociale.
I have become fascinated by the fact that these acts became recontextualized.
C'est que tous ces actes se sont vus recontextualisés
and may
au sein de notre culture
alter behaviors in the sense that
et peuvent altérer le comportement, c'est-à-dire que
okay
les gens commencent à penser que ah oui,
grab a woman's thigh under the table.
Peut-être que ce n'est pas acceptable dans un dîner de décider de mettre la main
because
sur la cuisse de la jeune femme à côté de vous, parce qu'elle pourrait protester, elle pourrait vous humilier
public.
En public, vous l'homme qui aurait cette tentation.
That in the best case story, Me Too has provided
dans le meilleur des cas,
a language.
Me Too a donné aux femmes un langage.
You know, to say, gee, it's part of our culture to think that might
et
not be okay.
Et ça nous permet maintenant de dire, eh bien, culturellement, on a le droit de dire non, ce n'est pas acceptable.
Mais est-ce que la littérature et encore mieux la philosophie peuvent nous aider à ce sujet? Est-ce que c'est pas il y a pas une impuissance de celui qui écrit?
I just published a novel that has a sexual
assault. Je viens de publier un roman où je décris une agression sexuelle.
And
c'est au cœur du roman.
I actually written the scene of the sexual assault.
Et quand j'ai écrit cette scène d'agression sexuelle avant l'avènement du mouvement MeToo.
When I was finishing the book, the newspapers were full of this.
Et alors que je finissais d'écrire ce dernier livre, c'est vrai qu'on parlait partout dans les journaux de MeToo et de toute cette question.
A topical novel.
Et je me suis dit, ah, j'ai enfin réussi à écrire un roman d'actualité.
But you know, it's a very complex book and it really was not
received très complexe.
As, you know, part of the now.
Et il n'a pas été reçu comme étant en plein cœur de l'actualité, comme faisant partie du maintenant.
Je précise que votre dernier livre s'appelle Souvenirs de l'avenir et qu'il est publié comme tous vos autres ouvrages aux éditions Actes Sud et traduit par Christine Leboeuf. Une question qu'on va vous poser cette fois-ci, c'est Gilles Deleuze qui vous la pose.
Je voudrais moi aussi poser des questions. Qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Et est-ce qu'on a quelque chose à se dire en fonction de cela?
Alors, je vous ai posé des questions, Cyril Svet, concernant votre rapport à l'écriture, votre rapport notamment à la musique, votre goût pour la musique, pour le dialogue, votre conception de du rôle que peut jouer le sexe dans notre société, votre réflexion par rapport au mouvement MeToo, pour essayer d'interroger le lien entre ces questions politiques, esthétiques, y compris sexuelles, et la philosophie. Qu'on va revenir quand même au début de l'émission. Comment, pour vous, ces choses-là peuvent s'articuler? Est-ce que la philosophie, aujourd'hui, ne souffre pas d'une existence trop abstraite par rapport au reste de la société?
Well, this is an excellent question.
Excellente question.
As the older I get,
plus je vieillis,
the more convinced I am,
et plus je suis convaincue
of the essential connection,
plus je suis convaincue du lien essentiel
between how we understand
qui existe entre la manière dont nous comprenons le monde et dont nous nous comprenons nous-mêmes
and questions in philosophy
et les questions philosophiques.
So,
ou les questions que pose la philosophie.
Do we draw the borders?
Donc, où est-ce qu'on trace la ligne de démarcation?
Right. Deleuze is interesting that you had him on.
C'est intéressant d'avoir entendu Gilles Deleuze là.
He is a philosopher who is coming out of a philosopher that I very much admire, which is
Deleuze
Alfred North Whitehead.
Un philosophe qui s'est aussi inspiré de North Whitehead.
Of dynamic processes
et l'idée de ces processus dynamiques à l'œuvre.
Well, he would never use this word, but
en fait,
primary,
il n'utiliserait pas ce terme, mais primaire, disons. Processus primaire.
The idea of categories, boxes and things.
À cette idée de catégorie, de mettre les choses dans des cases et de tout catégoriser.
So, recently, I've become very interested in contemporary philosophy of biology.
Dernièrement, je me suis beaucoup intéressée à la philosophie contemporaine de la biologie.
And among the big questions,
et parmi les grandes questions que pose cette discipline, qu'est-ce qu'un organisme?
How do you separate an organism from its environment?
Comment sépare-t-on un organisme de son environnement?
What is agency?
Qu'est-ce que ce qu'on appelle agency, right? C'est-à-dire un sens d'autonomisation, de libre arbitre?
Does a bacterium have agency?
Est-ce qu'une bactérie peut avoir son autonomie décidée par elle-même d'agir de telle
right,
ou telle manière?
Yeah, will, a kind of will.
Est-ce qu'elle est dotée d'une volonté, cette bactérie?
You know, a little E. coli bacterium.
Par exemple, une bactérie E. coli
away from a toxic substance
va s'éloigner
and go right
d'une
for
substance
sucrose,
toxique
sugar.
Et se diriger vers de la sucrose, du
so,
sucre,
what are we talking
du glucose.
About?
De quoi parle-t-on?
What about organs in the body.
Et qu'en est-il des organes du corps,
bodily systems that are
des systèmes messages, corporels
signaling,
qui envoient des messages, des signaux dans le corps et qui interagissent de manière très complexe.
So, these questions are reinstating many of the questions
ces
that
questions
were asked
réactivent
in the 17th century,
bon nombre des questions que l'on s'est posées au XVIIe siècle dans le cadre de la philosophie naturelle.
So, Descartes, had an idea.
Descartes a une
Hobbes
idée là-dessus.
Had
Hobbes,
another idea.
Lui, a eu une autre idée.
One of my favorite philosophers who I'm going to get in, Margaret Cavendish.
Et Margaret Cavendish, elle avait encore une autre vue sur la question.
So, mechanism, the idea that nature
tous ces
is
mécanismes,
a machine,
l'idée selon laquelle la nature est apparentée à une machine,
has its origins in that period.
Trouve ses origines dans cette période.
But there's something wrong.
Mais je crois qu'il y a quelque chose qui cloche là, avec cette compréhension mécaniste uniquement de la nature.
And there are philosophers of biology now.
Et il y a des philosophes de la biologie aujourd'hui
exactly that,
qui critiquent cela justement.
The life was taken out of nature.
Que la vie a été retirée de la nature.
So it's
qu'on a
not
vidé de la vie.
That the questions now are fundamentally different. It's that
ce n'est pas qu'on se pose des questions aujourd'hui fondamentalement différentes, mais c'est que les questions que l'on se posait au XVIIe siècle n'ont jamais trouvé de résolution satisfaisante.
And new empirical evidence is forcing us
de nouvelles preuves empiriques nous obligent à revisiter ces mêmes grandes questions.
Et dans quelle mesure la culture joue un rôle décisif dans ces approches scientifiques et ces questionnements philosophiques? Pour être très concrète, par exemple, on peut comparer la manière qu'a la philosophie d'être enseignée en France et aux États-Unis. Dans quelle mesure ces questionnements universels sont en fait dépendants de données culturelles?
They certainly do.
Vous
And
avez tout à fait raison.
I think that what happens in every culture,
ce qui se passe, je crois, dans toute culture,
some arguments win the day,
c'est que certains arguments raflent la mise, reçoivent l'assentiment de tous, tandis que d'autres sont repoussés à la marge.
And then the story that's told, the inherited
et après, l'histoire que l'on va raconter, cette histoire
kind of
héritée
nice,
et transmise,
clean
ensuite devient comme une ligne bien claire, bien propre, qui va de la révolution scientifique jusqu'à maintenant.
Without a lot of interrogation of the premises.
Mais sans beaucoup s'interroger sur les fondements de ces arguments.
But as Thomas Kuhn,
mais
who
comme
wrote
Thomas
a book
Kuhn,
called The Structure of Scientific Revolutions,
qui a écrit La structure des révolutions scientifiques,
that there are moments when science runs into a wall.
Qu'il y a certains moments où la science s'écrase dans le mur.
And then the paradigms have to change.
Et à ce moment-là, il faut changer de paradigme.
And I think in contemporary science,
et dans les sciences d'aujourd'hui, la science contemporaine,
this is happening.
Et c'est
je crois que c'est
philosophie.
En train de se passer.
Well, it may in some philosophies mirror
dans certaines philosophies,
science, right?
Je crois qu'on a un effet miroir avec les sciences.
A rebirth of panpsychism
et il y a une renaissance de panpsychisme dans la philosophie anglo-américaine.
But I also think that the ecological crisis
mais je pense également que la grande crise écologique que l'on vit
has pushed a re-examination certainly in the philosophy of biology,
notamment dans le champ de la philosophie de la biologie,
of fundamental understanding
nous pousse à réexaminer la compréhension profonde qu'on a de la vie. En fait, ça encore, c'est une des grandes questions à laquelle on n'a jamais totalement répondu.
Et sans doute, heureusement, Siri Ustvedt, merci beaucoup d'être venue ce matin parler de votre travail. On va se quitter avec un dernier son, une chanson que vous nous avez conseillée. Il s'agit de Aretha Franklin, Respect.
Oh, God.
Pourquoi cette chanson?
I love this song. Oh, well, this is a fundamental reality of human interaction.
Parce que, eh bien, ça représente un des aspects fondamentaux des interactions entre humains.
You know, my mother once told me a beautiful thing.
Un jour, ma mère m'a dit quelque chose de très
child,
beau.
Before I was
avant
a mother,
que je devienne mère,
you know,
avant que j'ai un enfant, elle m'a dit, tu sais, on aime ses
But
enfants,
really
c'est comme ça.
Important.
Mais ce qui est très important, c'est de les respecter aussi.
On l'écoute?
Oui.
Merci à Eve Der qui a assuré votre traduction aujourd'hui, Siri Ustvedt, et j'en profite pour rappeler que vos ouvrages sont traduits en français par Christine Leboeuf et disponibles aux éditions Actes Sud. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, comme tous les vendredis, vous nous proposez votre anti-manuel de philosophie, aujourd'hui sur la fragilité.
Et oui, mine de rien, la fragilité s'est installée dans le paysage mi-philosophique, mi-développement personnel. Pour preuve, le dernier ouvrage du philosophe Jean-Louis Chrétien, paru en 2017, sobrement intitulé « Fragilité », et c'est très érudit, allant des Grecs à Kant, ou la sortie l'année dernière de « L'art d'être fragile » d'Alessandro d'Avenia, best-seller en Italie, qui prône une ouverture aux accidents de la vie. J'en veux pour preuve aussi le succès d'une conférence régulièrement republiée sur le site de France Culture, pourquoi il faut voir la fragilité comme une force, sans parler bien sûr de tous les articles ou dossiers nous encourageant à ne pas la refouler, notre fragilité. Il ne m'en fallait pas plus pour voir dans cette convergence une nouvelle injonction, celle à cultiver l'envers soi-disant lucide de notre univers pourri par la compétition.
Fragile, tendre, rebelle et insoumise. Comme une fleur sur la banquise, douloureuse à la moindre brise, quand le froid souffle sur ton cœur. Perdu, je te regarde qui avance,
Faiblesse, inconstance, inconsistance, même débilité, ce sont quelques-uns des synonymes fort sympathiques de la fragilité. A priori, rien ne donne envie, en tout cas rien ne me donne envie de la laisser advenir, voire d'en faire un art. Pourquoi alors ce succès de la fragilité? Pourquoi est-elle tant séduisante? Qui veut devenir inconstant, inconsistant, faible et débile? Eh bien, comme pour la mode, il faut décrypter la tendance et comme d'habitude, ce n'est qu'une histoire d'inversion, de positif et de négatif, d'aller et retour. L'époque étant à la compétition, à la concurrence, au capitalisme fort et féroce, il faut forcément jouer le jeu de la contradiction et de la pseudo-distance critique, il nous faut forcément valoriser son contraire, la fragilité. Mais je le demande, qui veut ou peut faire le choix de la fragilité? Alors je ne vais pas tomber dans la critique marxiste, ce sont au fond les plus forts qui peuvent se permettre d'être fragiles de temps en temps, car ils sauront s'en relever, mais elle reste pertinente. Ce qui m'interpelle plutôt, c'est ce paradoxe d'une existence fragile. Comment persister dans l'existence tout en étant affaibli? Et inversement, que reste-t-il de la fragilité quand on résiste, quand on fait donc preuve de force malgré tout?
Cette prise de conscience de notre fragilité est salutaire. Elle va nous permettre de repartir plus lucide, d'avancer même blessé. Car notre lucidité a besoin de l'adversité, comme elle a besoin d'intériorité.
Et fragile, ce qui a la disposition de se briser facilement. La fragilité n'est pas que circonstancielle, mais carrément une propriété que, de fait, partagent tous les êtres vivants, condamnés à mourir. On est alors en droit de se demander pourquoi la cultiver si elle est déjà donnée. Et même plus, on est triplement en droit de se le demander. Car déjà, je le rappelle, c'est une disposition repoussoire, personne n'a envie d'être faible. Car ensuite, personne ne peut favoriser l'accident ou la mort. Et enfin, car très littéralement, personne ne peut amplifier ce qui est précisément inamplifiable. En fait, l'art de la fragilité a quelque chose de profondément contre-productif. Il s'agit de ne rien faire, soit d'assister stoïque au coup du sort, soit de s'y ouvrir avec enthousiasme. Au final, c'est un éloge forcé de notre condition passive. Alors bien sûr, je vois déjà les objections. Je ne verrai pas la vertu de la fragilité, trop pétrie que je suis par ces idées de productivité et d'efficacité. Eh bien, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est ceux qui défendent la fragilité qui sont trop pétris par ces idées d'efficacité. Car au fond, cet éloge de la fragilité n'est qu'une conversion. Donnez-moi de la boue, j'en ferai de l'or. Traduisez-le, donnez-moi de la fragilité, j'en ferai une force.
Je suis Léa Salamé et je vous propose une série d'été, une rencontre avec des femmes puissantes. Pourquoi femmes puissantes? D'abord parce que ce sont deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit des femmes qu'elles sont belles, douces, charmantes, délicieuses, parfois méchantes, parfois manipulatrices, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et bien cet été, je vous propose de rencontrer 9 femmes puissantes.
Vous avez remarqué, c'est le nouveau terme à la mode, puissant. Depuis le roman de Marie Ndiaye, les femmes sont puissantes, un récit est puissant, une rencontre est puissante, un café est puissant. J'en parlerai plus précisément une autre fois, mais j'y vois exactement cette même occultation de la force pour un terme plus vendeur, mais qui veut dire exactement la même chose. Et puissant, celui qui est fort potentiellement. Et fragile, celui qui résiste, qui est donc fort, mais sans le manifester. Pourquoi donc ne pas assumer que la fragilité aujourd'hui prônée n'est qu'un simulacre, une vertu bien commode pour les forts qui n'assument pas de l'être.
Merci beaucoup Géraldine et merci d'assumer votre force tous les matins à ce micro. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda, en compagnie de Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, qui a réalisé pour vous cette semaine à la prise de son aujourd'hui. C'était Cindy Legrumelec. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. On s'intéressera la semaine prochaine à l'année 1969 en philosophie, en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, vous verrez, l'année 1969 est une année philosophique. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, avec qui vous voulez, pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où l'équipe des Chemins de la Philosophie sera ravie de répondre à vos questions. On se retrouve lundi à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Thank you.